France Culture.
Bonjour Nathan, on fête un centenaire aujourd'hui et en bonne compagnie, à la semaine prochaine.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Un acteur et un dessinateur ce samedi dans Plan large, ce sont Michel Piccoli et Jean Giraud Meubius. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan large. Depuis début décembre, on célèbre sur franceculture.fr et l'application Radio France nos grandes voix, celles qui depuis plus de 50 ans sont venues au micro de France Culture partager leurs idées, leur savoir et leur vision du monde. Ça va de Paul Virilio à Marguerite Yourcenar et on ne saurait que trop vous recommander celle d'Agnès Varda en masterclass et pas seulement parce que j'avais eu le plaisir de l'accompagner dans l'exercice. Une grande voix nous manquait, c'était celle de Michel Piccoli, le comédien génial et aussi très singulier cinéaste, aurait eu 100 ans aujourd'hui même. La chaîne Arte lui rend hommage avec pas moins de 7 films en accès gratuit sur sa plateforme et un beau livre qui l'accompagne, Michel Piccoli, le génie du jeu, signé du critique et directeur du cinéma sur Arte, Olivier Père. La Cinéthèque propose elle aussi un cycle avec 4 de ses films et pas des moindres, Les choses de la vie, La belle noiseuse, Habemus Papam et Milou en mai. Sur France Culture, vous pourrez passer la nuit avec lui dès ce soir minuit avec des lectures, des fictions et des émissions auxquelles il avait participé. Michel Piccoli, nous n'avons pas eu l'occasion de le recevoir dans cette émission, mais nous l'avons beaucoup rencontré dans des précédentes, comme dans cette lointaine prédécesseur de Plan large qui était Personne n'est parfait. De 1999 à 2002, tous les mercredis à 19h30, l'émission, produite par Marc Voinchet, aujourd'hui directeur de France Musique, était moins une émission de cinéma qu'en cinéma, et le 2 février 2000 s'y était rencontré pour la première fois, comme deux petits garçons très impressionnés par la légende qu'ils avaient en face d'eux, Michel Piccoli, donc venu parler du film Compagne de voyage de Peter Del Monte, et le dessinateur Jean Giraud, alias Meubius, qui jouait un petit rôle dans le 1999 Madeleine de Laurent Bounic et avait été envoyé voir le Toy Story 2 de John Lasseter. Vous y entendrez la jeune voix de votre serviteur, puisque j'avais le bonheur alors de collaborer à cette émission, et Personne n'est parfait. Si vous vous en souvenez, ça commençait comme ça.
Plus de larmes.
Je vous ai dit que la beauté me fait toujours cet effet.
Nobody's perfect.
Oh, des salades!
Ce n'est plus la présence de Dieu. C'est l'absence de Dieu qui rassure l'homme.
Nobody's perfect.
Catherine Parent, Gaël Gillon, Marc Voinchet, Personne n'est parfait, bonsoir. Et ce soir, c'est fête à PNP dans le 168 de France Culture. C'est fête, oui, avec deux invités qui, à eux deux, peut-on dire, sont des maîtres dans leur domaine, des monstres sacrés. Oh là, mais que fais-je ? Voici que l'emphase guette pour les présenter. Erreur, tant au fond leur parcours, leur œuvre, leur attitude n'exclut personne, ne recouvre personne, donne envie plutôt, parce qu'au fond, ces deux-là, qui sont avec nous ce soir, sont animés par à la fois autant d'anticonformisme que de liberté. Oui, ce soir, nous avons eu l'idée de faire se rencontrer et de vous faire rencontrer Michel Piccoli et Jean Giraud Meubius. Allons bon, quel rapport encore ont-ils ? Aucun apparence, pas le moindre petit point commun ? En fait, à la lecture attentive de chacun de leur parcours, de leur œuvre, ces petits points communs, ils existent, ils sont nombreux, mais il y en a par exemple un, tout premier, oh, ténu certes, mais bien réel, c'est que l'affiche de Touche pas à la femme blanche de Marco Ferreri est dessinée par l'auteur de Blueberry, Jean Giraud. pour la suite. Ne quittez pas l'écoute, ce soir, nous parlerons de 1999 Madeleine de Laurent Bounic, avec donc Moebius Giraud, de Compagna di Viaggio, de Peter Del Monte avec Michel Piccoli, et puis aussi de Toy Story numéro 2 avec personne, enfin personne, si j'ose dire. Alors, voilà, quoi.
Je vais vous chanter une chanson. Avec une charmante demoiselle, je devais me marier par amour. Mais un soir, comme j'étais près d'elle, en train de lui faire la cour, me voyant troublée, elle me dit: qu'avez-vous, moi? Je lui répondis: j'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, et puis j'ai ajouté, voyez-vous, c'est pas tout, j'ai les genoux qui sont mous, j'ai les coudes qui se dessoudent, j'ai les seins sous le bassin, et le bassin qui est pas sain. Ça vous fait pas rire?
You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old pal said. Son, you've got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. You've got a friend in me. You've got a friend in me. You got troubles, then I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, we can see it through. 'Cause you've got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, bigger and stronger too, maybe. But none of them will ever love you the way I do. Just me and you, babe. And as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see, it's our destiny. You got a friend in me.
Qu'est-ce que vous dites, Michel Piccoli?
Je disais, c'est, les chanteurs américains, c'est quand même d'une séduction fantastique.
Vous aimez beaucoup Fred Astaire, par exemple, je crois.
Bah, c'est mon idole.
Hein, oui, mais nous, figurez-vous à nous aussi. Ici,
ah bon, j'ai une seconde idole.
Oui,
Buster Keaton.
Oui, vous avez raison.
À nous aussi.
À nous aussi. Vous avez reconnu dans le générique une voix, ce n'est pas la présence de Dieu, mais l'absence de Dieu qui rassure l'homme. C'est un film dans lequel vous étiez, je crois.
C'est la voix de Fritz Lang.
Ah, voilà.
Oui. Oui.
Ça aussi.
Dans Le Mépris.
On aime bien. La personne n'est parfaite. Elle est, tous les mercredis, on la réentend. Et puis là, on vient donc d'entendre la musique, cette musique dont vous trouvez qu'elle a effectivement la pêche, la musique de Toy Story numéro 2. Bonsoir. Alors, je ne sais pas vraiment à chaque fois comment il faut dire, s'il faut dire tout d'un seul coup. Bonsoir Jean Giraud Moebius. Bonsoir Jean Giraud, bonsoir Moebius.
Ne vous inquiétez pas pour ça.
On va dire Jean Giraud Moebius.
Enfin, on va s'arranger. Moi, Moebius, oui.
Bon. Vous avez reconnu, vous, bien sûr, cette musique, puisque nous avons eu l'idée, comme nous aimons le faire ici quasiment tous les mercredis, nous avons eu l'idée de vous faire chroniquer un film qui sort à l'affiche. Et ce film, il nous a semblé que vous étiez assez bien... tout désigné, au fond, hein, pour être ce chroniqueur d'un soir à personne n'est parfait, puisque c'est donc Toy Story numéro 2. Mmh. Parce qu'auparavant, il faut dire bonsoir Anton Guillaume. Il faut juste rappeler que Moebius a eu de nombreuses aventures, certaines qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché, avec le cinéma, mais avec justement, pas en particulier, le cinéma de trucage et le cinéma numérique.
Voilà, on connaît beaucoup donc Moebius, on connaît Jean Giraud pour Blueberry, Moebius pour des séries comme L'Incal notamment. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il a collaboré au cinéma depuis très longtemps. Il a travaillé sur Dune, qui aurait dû se faire avec Jodorowsky.
Mes premières collaborations, c'était en tant que dessinateur.
En tant que dessinateur
d'affiches.
Oui, dessinateur d'affiches pour Touche pas à la femme blanche.
Oui, par exemple, mais d'autres, La Trace, puis d'autres comme ça. Et pour moi, c'était formidable d'être approché par le cinéma, d'être vu, hein, de participer à la carrière d'un film, ne serait-ce que par la petite porte comme ça, ça me suffisait. Après, quand j'ai commencé à être, sollicité sur des films, et c'est passé un phénomène curieux, c'est que ça a toujours été pour des films américains. Alors, ça me déplaisait pas parce que j'ai toujours été un fan du cinéma américain.
Comme Alien, comme Tron.
Ouais, mais tout. Vous savez, quand j'étais tout jeune, étudiant, à partir de 16 ans, tous les genres qui étaient considérés comme un peu populaires, un peu vulgaires, que nous envoyait le cinéma américain après la guerre, étaient mon pain béni. Les films d'angoisse, de terreur, ou les comédies musicales, les westerns, les films policiers, les films sentimentaux, on pleure, etc. J'allais pleurer.
ce qu'on appelait
Michel Piccoli.
Vulgairement les séries B.
Même les séries B, j'adorais. Les séries B, exactement. Les séries B, j'étais à l'affût des séries B, et on était toute une bande de jeunes, beaucoup de jeunes comme ça. On essayait d'avoir vu le film que les autres n'avaient pas vu parce qu'il était passerait inaperçu. Il faut penser qu'il y avait à peu près 4 westerns qui sortaient par semaine à Paris. C'est assez incroyable. Hein. Alors, il y avait les grands ténors, mais il y avait toujours plein de petits nanars qui passaient. Alors, moi, j'allais tous les voir dans l'espoir de tomber sur une perle que personne n'aurait vue.
Et tout cela a nourri, chaque fois, chacun de ces films a nourri l'imaginaire du dessinateur de bande dessinée.
Complètement. Ce qui fait que, quand, par exemple, j'ai été contacté pour travailler sur Tron, c'est ma première collaboration, je suis arrivé à Los Angeles et ça a été... J'avais l'impression de rêver. J'étais aussi un lecteur de Cinémonde quand j'étais encore plus jeune et il y avait un article, je ne sais pas si c'est dans Ciné-Revue ou Cinémonde, il y avait J.V. Cottom qui envoyait des chroniques de Hollywood.
Cinémonde.
C'était dans Cinémonde, voilà. Alors chaque semaine, il y avait sa chronique, il parlait des... Il parlait plus particulièrement des artistes français qui s'exilaient là-bas, comme Louis Jourdan et les autres.
Et vous-même, vous êtes exilé là-bas dans les années 80.
Oui, voilà, il racontait des trucs et d'un seul coup, ça m'arrivait. Alors moi, j'étais plus là, j'étais dans Cinémonde, j'étais dans le cinéma, j'étais dans Hollywood.
Alors, Toy Story numéro 2 de Jonathan Lasseter sort aujourd'hui. Et puis donc, on vous y a...
Oui, alors j'en ai profité pour emmener ma petite fille de 4 ans, qui est, ça c'est un bon signe, elle s'est assise, le film a démarré, elle s'est pas désunie dans le suivi du film, du début jusqu'à la fin, et ce qui est quand même pas mal. Alors c'est un film vraiment extraordinaire, il y a tout ce qu'on attend d'un film américain traditionnel, quoi. Hein, c'est vraiment, et je dirais que c'est pas un film d'animation en images de synthèse, c'est un film de John Lasseter, point à la ligne.
Antoine Guillot.
Pourtant, c'est un projet qui devait vous intéresser particulièrement à cause de ce fameux film en images de synthèse dont on parle depuis 10 ans, qui devait s'appeler Star Watcher.
Oui, mais moi, c'est un peu différent. Le film que j'ai essayé de faire avec Alain Guyot à l'époque, d'abord, c'était un peu prématuré. C'était 2 ans avant la sortie, ou 2-3 ans avant la sortie du premier Toy Story. Et la technique n'était pas encore tout à fait au point. D'autre part, il était question de faire un film vraiment réaliste, avec des personnages, normaux. Vous voyez. Et alors là, ça, c'était vraiment la barre placée au maximum.
Et la technique vous semble au point maintenant pour le
oui,
réaliser?
Oui, tout à fait. J'ai vu beaucoup de choses aux États-Unis. La dernière fois que j'y suis allé, j'ai vu des techniques de motion capture absolument perfectionnées, incroyables. J'ai vu par exemple un masque qui a été fait de Jim Carrey, l'acteur. Et le masque, enfin c'est pas un masque, c'est une prise de son visage avec tous les détails, les pores de la peau, les lèvres, les yeux, etc. Et tout est mis sous programme. Et après, avec les mains, comme un marionnettiste, on peut faire ce qu'on veut avec ce visage. On peut le faire tourner, on peut le faire se lever, on peut faire se gratter. Non, il n'y a pas les mains. Mais on peut le faire sourire, froncer les sourcils, toutes les expressions. Alors, je ne dis pas qu'on peut faire un film entier, mais je dirais que si on peut faire maintenant un film et puis scanner comme ça un des acteurs, et s'il manque une petite prise avec son autorisation, s'il est déjà parti ailleurs,
vous êtes quasiment tout à trac en train de mettre Michel Piccoli au chômage, quand même, là.
Non, je ne crois pas, non, parce que c'est autre chose.
Il ne me met pas du tout en malaise.
Non ?
Non, la façon dont je le dis, c'est pas quelque chose qui fait peur, moi, je crois pas. Donc.
Alors oui, parce qu'effectivement, on est arrivé à un principe de technologie à ce point avancé, avec Toy Story numéro 2, qu'effectivement, ils réussissent désormais à faire des choses qui posaient encore problème hein, dans cette technique d'animation avec le numérique. C'est-à-dire qu'au fond, on n'arrivait pas à faire très bien les maths, par exemple, tout ce qui est de l'ordre du maths, c'était le brillant qui était plus simple à faire. Et puis tout ce qui est de l'ordre des poils, par exemple.
Bah, regardez, dans Toy Story, il y a une séquence où le patron des jouets là, il est en train de dormir hein, et il y a le petit cow-boy qui monte sur sa chemise et on voit son visage en gros plan, c'est absolument incroyable. Mais je me suis dit à un moment donné, non mais c'est pas possible, ils ont plus un acteur là. Ben non, on voit les poils de barbe, on voit les
rougeurs, la différence de peau.
Oh, c'est pas possible. Mais ça, c'est fait avec un amour total. Hein.
Oui, parce qu'alors on serait quand même tout à fait incomplet si on ne disait pas qu'au fond, il ne s'agit pas seulement d'une prouesse technique, effectivement, technologique. C'est qu'il y a, une véritable histoire, il y a un vrai scénario.
Ah, non, mais moi,
on suit ça comme un film à part entière.
Moi, ces petits personnages en électron, d'un seul coup, je tremblais pour eux. Et puis, d'un seul coup, le personnage, il a un problème moral qui est vraiment authentique.
Oui, alors il faut le dire, faut-il finir au musée ou faut-il
qu'est-ce qu'il faut trahir,
déjouer, que faut-il trahir,
voilà,
la
section
qu'un enfant a pour vous, voilà, ou est-ce qu'il faut s'abandonner à la reconnaissance d'être exposé dans un musée de jouets.
Le scénario est un petit peu manipulateur, il nous met au bord du gouffre et puis bon, très vite, on va... Enfin, manipulateur, mais enfin, il nous épargne la véritable souffrance d'un mauvais choix ou même d'un choix. Les événements se font, et il y a des coups de génie successifs qui font que c'est quand même adroitement fait, parce que c'est pas fait d'une façon trop évidente. C'est joli.
Jean Giraud, est-ce qu'on peut en finir ou pas, et comment est-ce qu'on peut avoir une idée précise sur cet éternel débat qu'il peut y avoir, par exemple, au sujet du cinéma et de ce qui peut le différencier de la bande dessinée, voire à l'opposé. Est-ce que, au fond, une bande dessinée serait un très bon storyboard pour un film, ou est-ce qu'au contraire, la bande dessinée est déjà en soi un film mis en scène?
Mais je ne pense pas qu'une bande dessinée soit un storyboard. Il me semble que, ou alors je me trompe sur les mots, on peut se tromper sur les mots, parler de storyboard à propos des bandes dessinées, je crois que c'est très vulgaire et que c'est...
Non. Et puis surtout, je crois que ça ne serait pas filmable.
Ceci dit, le fait d'avoir fait des storyboards a, d'une certaine façon, a influencé mon style de bande dessinée.
Et vous en avez fait beaucoup de storyboards?
On en a fait quelques-uns, on en a fait 4 ou 5. Ouais.
Mais pour les films. Pour les films.
Ouais, pour les films.
C'est un réalisateur qui vous a demandé à...
Je travaillais avec le réalisateur, toujours, oui. Et là, une fois, c'était pour un dessin animé, c'était Les Maîtres du Temps avec René Laloux.
Ah, c'est pas pareil, oui. Ah, ouais.
J'ai fait aussi un storyboard pour un autre film, c'est Tron. J'ai fait pas mal de storyboard dans le film. Et j'avais fait tout le storyboard de Dune, la version de Jodot qui s'est jamais faite. Mais alors là, c'était formidable parce que... J'avais le scénariste, j'avais le metteur en scène à côté de moi qui me disait « Attention, là, il y a le travelling. » Et puis j'ai très vite pigé le truc. Et puis je faisais bouger la caméra par le dessin. C'était vraiment... Là, c'était génial. J'ai vu le film. Ce film qui s'est jamais fait, moi, je l'ai vu.
Mais est-ce que, alors au fond, une bande dessinée est en soi comme un petit film? Est-ce qu'on peut parler de cadrage? Est-ce qu'on parle de mise en scène dans l'image? Est-ce qu'on parle de montage? Rythme, évidemment?
Assez paradoxalement, on peut dire en même temps oui. On peut dire oui, mais on peut dire aussi que ça n'a rien à voir. Parce que le dessin, la bande dessinée, ce sont des choses dans lesquelles on peut bouger soi-même en tant que lecteur. On va en avant, en arrière, on s'arrête. C'est la notion de temps qui est complètement différente.
Dans lequel on joue sur les cadres, sur les différences de cadres aussi.
Oui, et puis il y a cet arrêt, cette image arrêtée tout le temps qui est là. Et chaque artiste choisit plus ou moins consciemment le moment où il arrête une action. Alors, par contre, c'est vrai qu'il va mettre sa caméra quelque part. Voyez, il y a aussi une chose quand même qui change, c'est la différence de format. Dans le cinéma, on a toujours la stabilité extraordinaire du format de l'écran, comme à la télévision. Alors que dans la bande dessinée, on peut d'un seul coup avoir des images carrées, rondes, qui se tortillent dans tous les sens. Il y a beaucoup plus de liberté.
Ça, c'est très beau quand on voit une bande dessinée, les différents cadrages.
Ah, quand c'est bien
c'est
fait.
C'est très intriguant, c'est très impressionnant.
Ouais, bah il y a des génies là-dedans.
Mais est-ce que cinéma, s'il y avait des différents cadrages, est-ce que ça...
J'ai vu ça
plusieurs fois. Par exemple, il y a eu certains films où on voyait des actions parallèles.
Donc Brian De Palma a essayé de faire ça, il a fait ça dans Carrie, oui, qui ressort aujourd'hui d'ailleurs.
Voilà, c'est ça. Alors on voit, l'écran peut être divisé en deux ou en trois, ou horizontalement, et on voit des actions parallèles, mais on peut faire ça que un moment comme ça. Non,
c'est pas bâtir tout un film. Des choses parallèles.
Non, c'est pas pareil.
C'est deux triangles.
C'est la chose qui ressemble le plus, quoi.
Oui, c'est...
Et puis au fond, aujourd'hui, on a un peu aussi changé les rôles. Donc Jean Giraud est chroniqueur de cinéma, critique de cinéma pour ce mercredi. Et puis on vous a envoyé quelques dernières parutions, Michel Piccoli, de Moebius, Jean Giraud.
Vous croyez que je vais être
le dernier Blueberry.
Critique de Moebius, Jean Giraud.
Le dernier Blueberry.
Écoutez.
Non, vous les avez lus?
Bien sûr.
Bien sûr.
Moi, ce qui me passionne vraiment, c'est comment dans votre tête... Vous arrivez à faire les combien 40 days
dans le désert, oui.
Et
Blueberry.
Oui.
Alors il faut dire 40 days dans le désert, signé Moebius, et donc le Mr. Blueberry, signé Giraud.
Et ça c'est
vous
tout.
Me dire, bon, j'ai deux noms, c'est facile.
Non,
c'est pas vrai, ça.
J'ai fait les deux en même temps. Il m'a fallu 9 mois pour faire le Blueberry et 9 mois pour faire le 40 Days. Et c'était, quand je dessinais Blueberry et que j'avais un petit creux le soir ou que je devais faire un petit déplacement, j'emportais mon petit carnet. C'était un carnet qui est exactement dans le format. Et j'avais des rotring, c'est des stylos avec la pointe tubulaire très fine. Et au début, je faisais un peu n'importe quoi. Puis d'un coup, je me suis aperçu que j'étais en train de faire une espèce de chronique à travers cette méditation dans le désert. J'étais en train de faire une chronique de mon année, une sorte de carnet de bord de ma vie pendant toute cette année sur Blueberry. Parce que Blueberry, c'est beaucoup de travail. Hein. Puis c'est un travail lourd. Il faut les planches, il faut les installer. Je fais le scénario. Il faut être cohérent. Il faut penser au lecteur. Et vous voyez, c'est comme un film un peu. Alors que là, d'un seul coup, j'avais ma caméra stylo. Je vais dans tous les interstices où peut pas aller Blueberry. Où je peux pas aller avec Blueberry. Vous savez, toutes les zones de plaisir qui restent hermétiques à un genre un peu figé. Par exemple, on entendait tout à l'heure Randy Williams chanter.
Randy Newman.
c'est magnifique, c'est une très belle musique, mais ça peut pas. Ça peut. On peut faire ça, puis le soir, moi, je verrais très bien en train de faire un peu de Schubert. Voyez, parce que là, il y a quelque chose qui est peut-être pas complémentaire, mais qui va permettre de rééquilibrer l'âme un peu quand même.
Mais un grand musicien vivant. Ou mort il n'y a pas longtemps, faisait ça. Hein, il faut du Schubert et ils font de l'impro avec le.
Frédéric Goulda, qui est mort il n'y a pas très longtemps, faisait
et Portal, les deux. Portal fait ça Portal aussi très deux, bien. Et puis voilà, et moi c'est un peu ça que je fais, c'est mon ambition, c'est de montrer qu'on peut être en même temps un artiste, disons, populaire et commercial, et le faire avec beaucoup d'honnêteté, enfin le maximum d'honnêteté possible, une dédication sincère, et puis en même temps travailler dans des zones de laboratoire de soi-même, sans concession, pour peut-être 300 ou 3000 personnes, pas plus.
Mais en tout cas, si on extrait une image de Giraud...
Oui, alors en l'occurrence Geronimo.
Oui, Geronimo. Ouais. On peut le... Un enfant ou un adulte peut le coller dans le mur de sa chambre comme on colle la photo d'un chanteur ou d'un sportif ou d'un musicien. Ouais. Mais on n'aura pas quand même l'œuvre, si je puis dire.
Non, mais...
Tandis que l'autre, le désert... Vrai.
Là, il y a quelque chose
On peut arracher la page et puis tous les jours, tous les 15 jours, mettre à nouveau... Ça fait rêver à soi tout seul. Quoi. Ouais. Chaque page fait... raconte une histoire gigantesque.
Donc on va dire Moebius, 40 Days dans le désert B chez Stardom et le Geronimo chez Dargaud. Figurez-vous, Michel Piccoli, que les liens entre la bande dessinée et le cinéma ne sont donc pas si étanches que cela. Il y a un lien, bien sûr, chez René, qui s'est amusé à carrément le mettre en scène, mais il y a aussi un lien, donc les gens de bande dessinée aiment beaucoup le cinéma. René aime la bande dessinée. Il y a même un cinéaste qui sort un film aujourd'hui, Laurent Bounic, qui sort aujourd'hui 1999 Madeleine, qui est à ce point imprégné de la bande dessinée, qu'il conçoit au fond son cinéma à partir de ce film comme une série, c'est-à-dire qu'il va faire en fait des films comme on fait des feuilletons, et puis il fait jouer à la fin du film Jean Giraud, hein, qui est sur devant le porche d'une église.
Il lui fait pas jouer n'importe quoi, puisqu'il lui fait jouer le rôle de Dieu. Nous a-t-il dit.
Ah, mais ça, c'était dans le scénario, et la partie que j'ai pas lue, ça.
Je vous propose d'écouter Laurent Bonnic, qui s'explique justement sur cette notion de série, qui pour lui est très liée à la bande dessinée.
Chaque personnage du film, de Madeleine, va réapparaître en tant que personnage plus ou moins principal de cette suite de films, qui vont être la suite de la vie de ces personnages, mais montrés de manière très différente. C'est-à-dire que, par exemple, 2000 Eve, c'est l'histoire de la mère de Madeleine, qu'on
interprété
voit...
Interprétée par Anouk Aimée.
Interprétée par Anouk Aimée. Actrice, comédienne absolument géniale, qui donc a déjà comment dire ponctué 1999 Madeleine et qu'on va retrouver donc dans 2000 Eve, mais dans un style différent dans le sens où ça sera un film plutôt fantasque, plus bon avec des choses un peu bizarres qui vont se passer dans le film.
Ce ne sera pas les mêmes partis pris de réalisation d'un film à l'autre.
Ah, jamais, jamais. Le troisième, par exemple, 2001 Thomas, on va comprendre pourquoi le personnage de Thomas dans Madeleine réagit de cette manière vis-à-vis de Madeleine. Et donc, dans 2001 Thomas, c'est un thriller avec tous les ingrédients du thriller, mais avec les personnages, les caractères et les caractéristiques de chaque qu'un d'entre eux qu'on voit déjà dans Madeleine.
Et les 10 épisodes sont déjà écrits ou vous en êtes où ?
Non, c'est-à-dire que j'ai écrit certaines choses, des thèmes, des sujets, j'ai développé pour le prochain des scènes, mais disons que je me laisse l'opportunité d'écrire jusqu'au dernier moment chaque suite, chaque épisode, pour être influencé non pas par le détail du moment, mais plutôt par l'histoire de notre société, la manière dont on vit, quoi. Et donc en tirer quelque chose pour le mettre dans les films.
Un, demain sera notre jour, un autre jour. Trois. Notre Père qui es aux cieux, faites que je rêve un peu. Un. Faites que mon corps se remplisse. Notre Père qui es aux cieux, je vais compter jusqu'à trois. Et à trois, vous m'enverrez quelque chose de bien. Un, pour que je sache que vous ne m'avez pas oublié. Trois, demain sera notre jour.
Voilà, Vera Briol, donc au début de 1999, Madeleine, Antoine Guillaume.
Vera Briol, sur qui repose d'ailleurs tout le film, et elle a une interprétation incroyable. Elle incroyable. Se prête en plus au jeu très naturaliste de Bonnic, c'est-à-dire qu'elle ose se montrer sans maquillage, avec les petits boutons, les jambes qui ne sont pas toujours comme on voudrait qu'elles soient. Et en même temps, c'est un film qui est très maniériste, justement parce que Laurent Bonnic vient de la bande dessinée, c'est un ancien dessinateur, et dans le choix de ses cadres, dans des rimes graphiques, on retrouve un esprit bande dessinée. Alors, Laurent Bonnic m'a dit qu'il avait un projet avec vous de faire un film. Qu'en est-il ?
On peut se dire que il y a des moments d'enthousiasme comme ça. Alors, et puis il est tellement gentil, c'est un fan de BD intégral. Alors et quand il vient me voir, il me regarde comme si j'étais Michel Piccoli. Vous imaginez ? Et alors, non mais avec
il va être déçu.
non mais c'est l'admiration du fan. Hein. Ça c'est une chose qu'on on trouve ça en musique aussi, en bande dessinée. Ça, vous savez pourquoi c'est aussi fort dans la bande dessinée ? C'est parce que, jusqu'à encore pas longtemps, on était lus par des enfants. C'est-à-dire que la découverte de notre travail se fait par des enfants, quand on est enfant. Et si on a suffisamment de force pour intéresser, ça devient quelque chose qui se continue toute la vie. J'ai des lecteurs qui ont 45, 50 ans et qui me lisent depuis l'âge de 13, 12, 9 ans même. Et c'est une implantation dans l'histoire de personnel des gens qui est vraiment incroyable. Et en littérature, disons, sérieuse, entre guillemets, maintenant, compte tenu de l'évolution des mœurs, c'est vrai que dans le temps, on voyait des gamins qui lisaient les classiques très très tôt, mais c'est fini ça. Maintenant, les gens, ils lisent, les gamins, ils lisent de la bande dessinée, ils lisent des choses pour eux. Et la littérature sérieuse, les films sérieux, ça commence à arriver dans la conscience qu'assez tard. voyez, mais Disney, il est dans notre mémoire parce que on l'a vu d'une façon vraiment, mais c'est indéboulonnable. Même si on le déteste parce qu'il représente un tas de choses qu'on peut ne pas aimer, il est là, il est dans notre cœur parce qu'on l'a vu quand on avait 12 ans, 3 ans.
Ça, c'est capital. On ne pense pas assez ça de la bande dessinée.
Voilà, c'est ça.
On parle toujours, ouais. C'est qu'un film pour qui ça va de 7 ans à 77 ans. C'est pas vrai. Ça, c'est un slogan commercial. Mais la bande dessinée, c'est pas un slogan commercial. Ouais, non, c'est vraiment de 7 ans à 77 ans.
Mmh. Et est-ce que la magie opère toujours en bande dessinée? Comme apparemment, Michel Piccoli regrette qu'elle ne fonctionne plus trop dans le cinéma. Dans un entretien récent, vous avez dit la magie du cinéma est derrière nous, pas devant.
Oh, oui, un petit peu parce que je dirais qu'il n'y a plus les salles de quartier, qu'il n'y a plus le plaisir populaire d'aller au cinéma, qu'il y a aussi une compétition financière terrible, qu'on a organisé la guerre entre le cinéma dit d'auteur et le cinéma dit de...
Ouais, et puis le cinéma est sous perfusion un petit peu.
Oui, alors le cinéma est sous perfusion, il l'a toujours été, maintenant il est sous perfusion d'autres financiers que les producteurs fous, magnifiques qui existaient.
Oui, mais ça, vous allez le mettre en colère. Il n'est pas si superficiel. Vous n'avez pas eu, par exemple, l'avance sur recette, vous, pour Alors Voilà, dont on écoutait un extrait au début de l'émission.
Non, Michel, je ne l'ai pas eu. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne l'ai pas eu.
Trop atypique, trop fou.
Je ne sais pas. Mais enfin, comme je l'ai eu pour le prochain, je suis consolé.
Ça va.
Mais non, mais dès que vous passez quelque chose en concours ou devant un jury, écoutez.
C'est fini.
Hein? Voilà. Le cinéma, je crois au contraire que... Enfin, je trouve que le cinéma est de plus en plus important, ça ne veut pas dire que... Historiquement, je crois que c'est le plus beau livre d'histoire de tous les pays du monde qui puisse exister, c'est le cinéma. Je crois que
c'est vrai.
C'est peut-être encore plus beau qu'un très beau livre d'un historien qui a écrit un livre. Toute l'histoire depuis les Frères Lumière, l'histoire de tous les pays du monde, grâce au cinéma, vous lisez l'histoire de ces pays.
Dès que la lumière s'éteint... Que l'écran s'allume. Moi, j'aime.
Vous avez complètement raté votre vocation, Jean Giraud.
Non, parce que comme ça, je suis un très bon monteur, cadreur en BD. Et en plus, je choisis mes acteurs moi-même, je les fais jouer, etc. Non, mais le cinéma, c'est un art hypnotique. Vous voyez, quand on est assis dans son fauteuil, que la lumière s'éteint, que l'écran s'allume, hop, on est plongé dans un état de réceptivité exceptionnel.
Alors, Laurent Bouny s'inspire de la bande dessinée pour faire son film, et on le disait, chaque fois, ces allers-retours entre cinéma et bande dessinée sont constants. On va vous rappeler un petit souvenir à vous deux, qui évoquera des choses différentes pour l'un et l'autre, évidemment. Je ne vous dis pas tout à fait ce que c'est au départ. Vous allez entendre une voix d'un acteur... américain dans un grand film aussi américain.
Stumpy, you all right?
Sure I am, but there's a fella out there with a black hat that ain't.
And I'm that fella. Coming in.
Look what he did to my hat.
Stumpy, that was dude you shot at.
Dude? I didn't know. Didn't look like dude.
Fool almost blowed my head off.
Dude, how'd I know it was you? You get yourself all dolled up like Ash's pet horse and stick your nose in that door and don't say nothing. How do I know it's you? Tell me that.
Look at this hat. Look at it.
Yeah, and if you hadn't ducked, that's what your head would have looked like. Look, I never would have fired if I knew it was you.
Okay, I know. Just stop talking, will you? The shot didn't bother me. I've been shot at before.
Well, look, you could have hollered. Just because you get cleaned up don't mean you can't talk. You didn't get your tonsils washed out.
Okay, it's my fault. I should have yelled. I shouldn't have taken a bath. Just stop talking. Just let it be.
But, dude, you've been going around here for the last couple of years like something a cat dragged in, and now you expect...
Shut up!
Énergie, ils ont. Hein.
Oh là là.
Quelle énergie, ils ont. Oui. Alors, Walter Brennan, dans Rio Bravo... à côté de John Wayne et de Dean Martin. Je dis à côté parce qu'en l'occurrence c'est Walter Brennan qui a été très important, en tout cas qui a marqué une phase de votre carrière,
oui,
Jean Giraud.
Mais oui, parce que il y a eu un incident, ça a provoqué presque ma rupture et une brouille avec René Goscinny, puisque quand il m'a demandé de commencer une galerie de personnages sur le western, j'ai fait John Wayne en premier, je crois. Et le deuxième, j'ai amené Walter Brennan.
Qui joue le gardien de cette prison, voilà. Donc, dans Rio Bravo.
Pour
de
moi, oui, mais j'ai pris une image qui venait de My Darling Valentine, où il joue le...
My Darling Valentine, où il joue le père Clanton, retrouve dans Geronimo Lapache.
Exactement, sauf que moi, j'ai transformé en femme. J'ai fait Mac Clanton.
Oui,
Oui, parce que c'est ça qui est bien avec les mythes western, c'est qu'on peut prendre des libertés. Enfin, moi, je considère que les auteurs américains ont pris des libertés et que j'ai aucune raison de me les refuser. Donc, j'ai pris ce personnage et c'était dans le film. Il était avec, comment il s'appelle ?
Henry Fonda.
Henry Fonda, mais c'est Brennan que je mets en vedette, plus que Fonda, et dont je fais la biographie, etc. Et alors ça, René Goscinny a été vraiment très mécontent. Et
Pourquoi? Parce qu'il
considérait que une galerie de grandes stars du western devait ne comporter que des grandes stars du western. Et pour lui, Walter Brennan, c'était quelqu'un de complètement inconnu, un vieux bonhomme sans dents. Et il ne pouvait pas comprendre.
L'autre point commun aussi, Michel Piccoli, Jean Giraud, qui peut vous relier, mais cette fois-ci, ça sera plutôt de l'ordre critique. C'est par exemple, on va dire, le cheval, hein, l'amour du cheval que vous avez très profondément, Michel Piccoli. Mmh, hein, oui. Vous faites de mauvaises chutes parfois, ça vous occupe beaucoup.
Oui.
Jean Giraud.
J'ai un brevet d'aptitude de bon soigneur pour chevaux émulés.
Émulé. Ah,
c'est bien, oui.
Mais
c'est bien,
oui.
Alors figurez-vous qu'un jour, Jean Giraud a quand même essuyé une très mauvaise critique dans un quotidien du matin, parce qu'on l'a accusé, et c'est quelqu'un qui s'y connaît, Homérique l'a accusé de ne pas savoir dessiner bien les chevaux. Vous vous souvenez de ce papier, vraisemblablement, ouais. De ne pas tout dessiner d'eux.
C'est vrai.
Et alors,
je le reconnais volontiers. Hein. Je truque.
Ça vous a marqué ou pas?
Je truque honteusement.
Michel Piccoli, le cheval est crédible.
On peut inventer le cheval comme on veut. Les Chinois ont fait des chevaux qui n'existent pas.
Vous savez, par exemple, je montre des gens en train de se tirer dessus avec des coups de pistolet. Moi, j'ai jamais tiré sur personne.
Hein. Ouais, mais enfin, le cheval, vous savez, c'est pas compliqué. Vous allez chez Michel Piccoli.
Non, je suis. J'ai une. Joseph Julien, qui a été mon maître en dessin, disait que j'avais un côté sage savant. Au niveau du dessin. Enfin, c'est un peu désobligeant, par certains égards, quoique j'aime bien les singes, surtout quand ils sont savants, mais disons que j'ai une mémoire visuelle qui est extrêmement, qui fixe bien les choses, et j'arrive à, comment je pourrais dire, à regarder une chose, et après à fermer les yeux, et la mettre, à la reconstituer dans mon esprit, et après la dessiner, vous voyez.
Et les autres points communs, c'est que vous, au fond, Michel Piccoli, vous avez joué dans un film d'un dessinateur de BD, Inky Bilal, puisque vous avez joué dans Tico Moon. Alors, ça dirige comment un dessinateur de bande dessinée, en l'occurrence là, Inky Bilal? Est-ce qu'il y avait des réflexes particuliers de dessinateur de BD ou il était metteur en scène de cinéma à part entière?
Il était metteur en scène de cinéma, sauf
qu'il était décorateur.
Il était décorateur, il a fait les décors et les costumes. En quelque sorte.
Moi, j'ai vachement aimé.
J'ai bien aimé. Et voilà, encore une mauvaise querelle, ou plutôt, comment dire, oui, une mauvaise querelle, une fausse querelle. Et Tico Moon, moi, j'aime énormément ce film, Tico Moon. Mais les gens, comme on connaît, comme il est célèbre parce que c'est un qui fait des BD, les gens ont dit, oh, c'est pas un film, c'est la BD au cinéma.
Très beau film, ouais.
Ça, c'est paresseux comme jugement.
Per un seminterrato, ma che sono scemi? Sì, ma che cazzo me ne fotte a me dello stereo? No, invece su Porta a Porta ho visto un annuncio di un posto a 250.000 lire.
Lo so,
però mi ci vedi a me a dormire con due di biella? No. Sì, tutto compreso, ho capito, però. Ma mica li mozzico io a questi. Boh. Vabbè, io mo devo andare. C'è il vecchio. Sì. E che ne so, è normale, perché come sono i vecchi? Ciao.
Voilà, on entend la bande-son et la musique du film de Peter Dalmonte, dans lequel vous êtes Michel Piccoli, compagne à Di Viaggio, de Peter Dalmonte. On entendait la voix d'Asia Argento, parce qu'au fond, vous, pour entendre votre voix dans ce film, il faut d'abord vraiment tendre l'oreille, vous ne parlez quasiment pas. Et quand vous parlez, en l'occurrence, quand on voit le film dans la version originale, vous avez un doubleur italien.
Oui.
Mais c'est pas très grave, parce qu'on vous entend très peu.
Heureusement. Heureusement. C'est un amnésique. Il a fait de la philologie. La personne qui est chargée de l'accompagner lui demande qu'est-ce que c'est que la philologie. Il dit, oh, c'est une science, mais dans le fond, ça sert à rien. Enfin, il est dans son autre monde, dans un autre monde, et il parle très peu, puisqu'il. Mais
ça peut quelquefois ne pas être grave et être très paisible. Je ne sais pas si on peut faire des bandes dessinées muettes.
J'en ai fait.
Oui ?
J'en ai fait quelques-unes, oui.
Ah, ben je ne suis pas savant de la bande dessinée. Mais je veux dire par là que je connais un écrivain qui s'appelle Cosseri, Albert Cosseri, qui vient d'être, qui a été opéré il n'y a pas longtemps à la gorge, et qui ne peut plus parler. Les cordes vocales n'existent plus. Et il continue à avoir un plaisir, une joie de vivre et de regarder les autres vivre tout à fait extraordinaire. Je veux dire qu'on peut être, devenir aphasique, devenir muet, je crois, et vivre dans ce qu'on appelle un autre monde, un monde que nous ne connaissons pas encore.
Mmh. Alors dans ce film, en fait, vous jouez donc le rôle d'un monsieur, professeur de philosophie, de philologie, qui est atteint de... Bon, c'est la maladie d'Alzheimer.
On ne le sait pas trop, mais c'est pas
nommé comme ça, oui.
Ah, une anecdote. Cinéma, bande dessinée. Peter Del Monte me dit, bon, attention, on parle de comment est-ce qu'on peut traduire une maladie, une absence de mémoire. Et il m'a passé un dessin que lui avait donné un médecin. Il avait demandé à une personne atteinte de maladie d'Alzheimer de dessiner un moulin, enfin de faire un dessin. Cette personne a dessiné un moulin tout à fait réaliste. Quelques temps après, pour voir l'évolution de la maladie, il demande à ce même patient de faire un autre moulin. C'était déjà très loin du moulin réaliste. Un troisième dessin. Alors là, on s'est éloigné complètement. Et le quatrième dessin, c'était presque un dessin. C'était une chose abstraite. Parce qu'on avait vu les trois autres, on comprenait qu'il y avait les structures, les lignes d'un moulin et des ailes de moulin. Alors il m'avait dit, voilà, il faudrait arriver à la quatrième figure. Pour interpréter.
De la façon dont vous le décrivez, vous ne le décrivez pas comme une perte, mais comme un élan vers une synthèse, presque.
Ah, bien sûr. Oui. Et quand on voit ce quatrième dessin de ce moulin, que l'on voit grâce à l'évolution, enfin à cause de l'évolution de cette maladie, le dessin dit abstrait est le plus beau.
Oui, parce qu'en fait, il concentre tout.
Il concentre tout.
C'est vrai que l'art contemporain a pris très vite, je ne dirais pas comme modèle, mais comme voie d'entrée vers la vérité, les aliénés, et le dessin d'aliénés, et même l'attitude aliénée comme instrument de pénétration de la réalité que ne pouvait plus donner l'humanisme traditionnel.
Alors ce monsieur qui donc perd un peu la mémoire, perd un peu le sens de ce qu'il fait, enfin de ce qu'il fait à la fois, il se déplace très bien, il sort de chez lui, en fait il part de chez lui avec une valise, avec qui une cage à oiseaux, et puis il s'en va pour aller retrouver des gens. De temps en temps on comprend qu'il dit qu'il va voir quelqu'un, et puis bien sûr on aboutit jamais, et ce monsieur
il va voir une amie
chaque fois, et ce monsieur est suivi en fait en filature par une jeune femme, une jeune fille, Asia Argento, qui est dépêchée par en fait la fille de ce monsieur. Hein. Elle lui dit, tu sais, mon père, il perd la tête. Il faut le suivre. Dis-moi où il va. Et s'il va trop loin, appelle-moi parce que ça peut aller très mal. Et donc c'est la compagne de voyage. Elle le suit. Et ce qui est extraordinaire, c'est que effectivement, et là je ne sais pas comment vous pouvez effectivement mettre des mots sur ce que je voudrais vous demander, mais vous êtes sur des gestes, la plupart du temps, sur des précisions de gestes qui ont l'air évidemment comme ça de sortir d'être improvisés, qui sont le personnage et qui sont extrêmement émouvants. Et alors que vous avez dit plusieurs fois que vous aimiez incarner des personnages de monstres, que vous avez été cannibale chez Faraldo dans Time Rock, que vous avez comme ça, comment est-ce que vous faites ? Est-ce que par exemple ce personnage-là est un monstre ?
Bien sûr qu'il est un monstre parce que c'est un homme qui a perdu le contact de son existence. Et qui voyage, et qui se promène, et qui se balade. Il a une inquiétude, c'est qu'il ne sait plus dans quel sens on fait le nœud de cravate. Mais sinon, on ne voit pas ses inquiétudes. C'est un promeneur solitaire, un éternel promeneur solitaire.
Et qui va...
Et qui ne parle pas. Et non, il ne parle pas, mais vous savez, moi j'ai toujours pensé, et de plus en plus, je pense que écouter c'est aussi intéressant, même peut-être quelquefois beaucoup plus que de parler pour un acteur.
Est-ce que c'est
que l'acteur ça doit parler, plus ça parle, plus ça gagne.
Et ce qui est très touchant oui, ce qui est très touchant dans le film, c'est que vous lui donnez en même temps une consistance à ce personnage qui fait que le spectateur est sans arrêt en train de revoir son jugement sur lui. On se dit régulièrement, ah non, il est pas si fou que ça.
Puis après, on se dit, ah non, il est complètement fou. Puis on revient sur le jugement. Parce qu'il a vu, il y a la fameuse photo de cette jeune femme qu'il prend dans le train, et quand on se rend compte qu'il la garde avec lui plus tard. Donc il avait repéré aussi des choses, évidemment.
Mais oui, c'est pas un hasard, vous savez. Il n'est pas fou. Il est hors de son temps. Pas hors du temps. Il est hors de son temps, mais il n'est pas fou du tout. Sauf qu'il a perdu le contact avec sa vie. Et l'histoire de ce monsieur qui prend une photo de cette jeune fille comme ça dans le train, et qui après, la jeune fille voit cette photo qui était cachée dans le carnet du monsieur, ce carnet dans lequel il note son adresse, l'adresse de sa fille, les numéros de téléphone, etc. Mais c'est bouleversant de voir la situation de séduction qu'il peut y avoir entre un monsieur et une dame. Et là, c'est un très vieux monsieur qui a passé l'âge d'eux, comme on dit, et une très jeune fille qui découvre un être humain qui le fascine. Voilà.
Antoine Guillaume.
En même temps, votre personnage se rapproche justement, parce qu'il ne dit rien, de personnages du film burlesque, muet. Et on pense à Chaplin par moment, ou on pense à Monsieur Hulot.
Enfin, ou peut-être à Buster Keaton, du coup.
Vous êtes dans un burlesque passible, je dirais.
Ben, je n'ai jamais entendu une chose qui me fasse autant plaisir.
Comment vous vous y rentrez dans ce personnage-là? Si tant est qu'on rentre dans un personnage, on sait que par exemple Mastroianni, se mettait dans une colère noire en disant « je rentre pas dans la peau d'un personnage, je viens sur le plateau, je me mets devant la caméra, on dit moteur et j'y vais ». Bon, mais comment là, dans cette épure constante du personnage, vous avez travaillé tous les gestes?
Je ne peux pas vous dire. Je me rappelle que la première scène que j'ai tournée dans le film, simplement une scène où j'arrive avec cette jeune fille, nous sommes perdus, on va d'un autocar à un autre endroit, on marche dans la nature, on ne sait pas où on peut trouver un moyen de locomotion. Et je devais marcher, m'asseoir, regarder cette jeune fille et dire « il pleut ». Et puis m'asseoir en mettant mon chapeau. C'est le premier jour de tournage. Qu'est-ce que vous voulez qu'un metteur en scène dise à un acteur quand il doit faire ça? Ben, j'ai fait ça dans un rythme d'inconscience et de lenteur de mouvement et de gestes, si je puis dire. Un point, c'est tout. Je n'ai pas fait de la psychologie en me disant quel est le deep meaning, comme disent les Américains.
C'est un peu une confiance qu'on donne au film.
Quoi. Au film et au réalisateur. Ouais, mais ça, la confiance qu'il peut y avoir entre le réalisateur d'un film et l'acteur, et inversement, c'est capital. Vous dites. Ouais. C'est capital. Ouais.
Vous avez tourné combien de fois en Italie?
Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Beaucoup, oui. Beaucoup.
Et c'est un endroit où on a l'impression que vous vous trouvez bien. Alors évidemment qu'il y a ce nom, Piccoli, cette consonance et les origines. Mais vous avez un physique d'un Italien. Vous êtes un Italien dans le film, sans aucun doute. C'est ça aussi qui est très particulier.
Oui, mais heureusement, j'ai une tête qui me permet de porter n'importe quel couvre-chef et on y croit. Pas parce que je suis bon acteur, parce que j'ai une tête où... Je pense que vous, ça peut être la même chose. J'imagine que vous pouvez avoir n'importe quel couvre-chef, vous n'aurez pas l'air ridicule. Tandis qu'il y a des personnes...
Vous ne me regardez pas.
Pardon, d'autres personnes, je regarde tous les deux. Vous mettez des couvre-chefs, il n'y a rien à faire, vous ne pouvez pas croire. Vous ne pouvez pas y croire. C'est aussi simplet que ça, souvent.
Alors, poursuivons aussi ces connexions entre vous, Michel Piccoli et Jean Giraud. Alors, il y en a une qui pourrait sembler tirée par les cheveux, mais qui pourtant ne l'est pas. C'est Jean-Luc Godard. Alors, Jean-Luc Godard, on comprend très vite pourquoi avec vous, Michel Piccoli. Le Mépris, un des plus grands films qui se soit jamais tourné, et puis Passion. Mais Jean-Luc Godard est très important pour Jean Giraud. Mais le Jean-Luc Godard, d'avant le Mépris, plutôt celui de Charlotte et son Jules.
Oui, bien sûr, c'est la première fois où on a vu apparaître sa signature. Mais disons que c'est Jean-Luc Godard, mais c'est aussi toute cette école de metteurs en scène de l'époque. Ça inclut Chabrol. Moi, je trouve que les premiers Chabrol, c'est vraiment sublime. Les premiers Truffaut, tout ça. Mais vous pouvez pas imaginer l'état dans lequel ça nous mettait de voir des choses pareilles. Et d'ailleurs, il y a une chose que je voudrais dire, c'est que les films, il faut les consommer frais, à la sortie. Dès qu'on laisse passer un peu de temps, il faut faire un petit effort.
C'est parfois très compliqué parce que, par exemple, le film dans lequel vous êtes, Michel Piccoli, est tourné depuis un moment. Il a mis du temps à sortir.
Non, c'est la sortie.
C'est ça qui compte.
C'est la sortie qui fait la fraîcheur. Hein. On peut voir des films qui sont faits depuis 3-4 ans. C'est le moment où ils sortent.
Oui, on peut voir les films qui ont été faits il y a 35 ans.
On peut aussi.
Si on voit on peut aussi. La nuit du chasseur.
Tout à fait.
Mais c'est frais tout le temps.
Je peux vous mais n'empêche que quand. Moi, par exemple, j'avais vu Peeping Tom. À la sortie, et sans même. À l'époque, je ne savais pas du tout qui était le metteur en scène. Hein. J'y suis allé parce que j'avais l'impression qu'il y avait un peu de sexe dedans. Donc j'y suis allé. Et d'un seul coup, je suis sorti du cinéma en disant mais j'ai vu une œuvre absolument remarquable, unique. Et c'était comme un. Et puis ça venait de sortir, quoi. Bon, c'est vrai que. J'aurais pu le voir 10 ans après, et puis.
Jean Giraud, c'est
la même émotion.
C'est loin de la connexion. Alors, quand même, Charlotte et son Jules, il y a Jean-Paul Belmondo dedans.
Voilà, c'est ça. Alors, ça, c'est le choix de Blueberry, c'est sûr.
Et c'est Blueberry.
Voilà. Alors, il faut voir que.
C'est pas seulement Charlotte et son Jules.
Non, parce que.
Belmondo a le physique de Blueberry pour vous immédiatement.
Non, mais c'est aussi jusqu'à Pierrot le Fou, à peu près, hein, vous voyez. Tous les rôles, que ce soit avec Melville ou avec Godard ou avec d'autres, pendant presque 10 ans, Belmondo est réellement impérial. C'est quelque chose d'incroyable.
Michel Piccoli, dans le Don Juan de Bluval, il était
quand même pas mal. Moi, j'avais besoin d'un jeune homme.
Non, c'est tout à fait différent. Je comprends très bien.
Vous voyez, j'avais besoin presque un adolescent complètement
sauvage. Il est encore adolescent, même maintenant. Mais c'est pas le même adolescent.
Alors, on a voulu, pour vous deux, vous faire écouter justement un extrait de Charlotte et son Jules avec Jean-Paul Belmondo dedans, puisqu'on avait lu. Oui, mais alors figurez-vous qu'on s'est rendu compte d'une chose, en tout cas, qui n'avait. Moi qui m'étais jamais apparu, c'est que Jean-Paul Belmondo, dans ce film, ça n'est pas sa voix. Il est doublé par Jean-Luc Godard. Écoutez.
Je ne te demande pas d'avoir inventé la poudre, mais tout de même, pour faire les choses, tant en soit peu d'intelligence. Mais si, pour un imbécile. Tu veux absolument faire du cinéma.
Ça, c'est le rôle de Jean-Paul Belmondo, mais c'est bien la voix de Jean-Luc Godard.
Oui, complètement.
Et d'ailleurs, je pourquoi faire du cinéma? Je trouve ça déshonorant et démodé. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est le cinéma? Une grosse tête en train de faire des grimaces dans une petite salle? Il faut être con pour aimer ça. Mais si, je sais ce que je dis. Le cinéma, c'est un art illusoire. Le roman, la peinture, d'accord. Mais pas le cinéma.
Oui, c'est illusoire, il a raison, Jean-Luc. Mais vous savez, Jean-Luc Godard, il a souvent raison. Ce chien. Que j'aime énormément de tendresse. Maintenant, on découvre d'ailleurs que c'est un acteur magnifique, un acteur clown magnifique.
C'était en tout cas déjà un doubleur formidable.
C'était un doubleur magnifique. Et puis,
je pense que je suis passé à côté de ça, mais c'est incroyable.
Oui, c'est la voix, ce n'est pas la voix de Belmondo.
Ça prouve que ni vous ni moi, et pourtant vous l'êtes sûrement plus que moi, un savant du cinéma.
Mais à l'époque, je ne connaissais pas la voix de Belmondo. Je ne l'avais jamais vue.
Enfin, voilà, pour dire que. Vous savez que nous avons tous. Tous les cinéastes, parce qu'il y a des gens qui disent maintenant Godard, il y a même un cinéaste, je ne dirais pas son nom, parce que qui dit « Ah oui, Belmondo a beaucoup de talent, mais quand même, Godard n'en a aucun. » je veux dire que tous les cinéastes que j'ai rencontrés sont absolument bouleversés par Jean-Luc Godard.
Ben oui.
Mais tous les cinéastes, et pas de jeunes cinéastes qui veulent être le second Jean-Luc Godard, pas du tout. Les cinéastes américains viennent en France pour voir les films de Godard. Parce que c'est une sorte d'inventeur de l'image du cinéma, de je ne sais pas quoi. Il aurait pu faire de la bande dessinée aussi.
Non oh, bah oui, ça c'est sûr.
Alors vous savez qu'il a même dit une fois qu'au fond, ces films seraient tout à fait parfaits quand parfois même ils n'auraient pas l'image. C'est une boutade qu'il a, je le cite hein, réellement, il a déjà dit ceci. Est-ce que vous avez vu, vous, je crois, chez lui, ces histoires du cinéma, Michel Piccoli?
Oui. Oui, Dieu sait pourtant s'il en a un matériel et une mécanique, toutes les mécaniques, pour qu'on voit l'image et qu'on entende le son à la perfection. Je me souviens que je m'étais assis devant l'écran, il m'a dit « Non, assieds-toi un tout petit peu plus à droite. Pourquoi ?»« Bah, et le son, tu veux pas écouter le son ?»
Mais je vous propose
c'est un grand technicien maniaque.
Écoutez, je vous propose d'écouter justement seulement le son. Il y a une initiative extraordinaire qui a été aboutie, qui est sortie. On peut se procurer aujourd'hui les histoires du cinéma seulement en son. Il y a aussi des livres qui accompagnent les CD en question, puisqu'il y a donc le texte qui retranscrit les histoires du cinéma et quelques montages d'images qui ressemblent un peu au montage qui a été fait dans l'édition Livre pour Gallimard des histoires du cinéma. Mais en l'occurrence là, ECM, puisque c'est donc de ce label qu'il s'agit, le label ECM vient d'éditer entièrement ce son des histoires du cinéma, retravaillé avec François Musy, retravaillé par Jean-Luc Godard lui-même. Écoutez.
Chemin qui ne mène nulle part. Où dire l'histoire de Howard Hughes. Vous dire l'histoire de Howard Hughes. Plus courageux que Mermo et plus riche que Rockefeller.
Alors, Michel Piccoli, est-ce que vous retrouvez des choses ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui apparaissent seulement par le son et ce travail du son des histoires du cinéma? Vous avez dit, quand vous êtes occupé du centenaire du cinéma, du premier siècle du cinéma, oui. Vous avez dit, au fond, il n'y aurait que ça à montrer et que ça suffirait largement.
Le son?
Ces histoires de Jean-Luc Godard, oui.
Ah ben bien sûr. Si tous les distributeurs, tous les propriétaires de salles en France, par exemple, avaient eu le culot pendant 24 heures de ne montrer que les histoires du cinéma de Godard, ça aurait suffi. C'était l'essentiel. Mais il aurait fallu que ça apparaisse dans toutes les salles.
Bon, je sens que vous savez, on va en écouter un deuxième extrait. Alors c'est intéressant en plus là, parce que...
Vous m'avez coupé la parole, c'était pas clair ce que je disais.
mais je vous sens aussi curieux d'entendre encore un peu de ce travail sonore.
Ah oui.
Et en plus là, ce qui est intéressant dans cette histoire du cinéma, histoire avec un S, hein, histoire au pluriel du cinéma de Jean-Luc Godard, c'est qu'il parle de tous ces films qui n'ont pas été faits, et que c'est aussi ça l'histoire du cinéma.
De improviso, bruscamente, cuando un hombre y una mujer se encuentran y comprenden que ya no podrán separarse.
Dire, par exemple, toutes les histoires des films qui ne se sont jamais faits.
Oui. La nuit est venue. Un autre monde se lève. Dur, cynique, analphabète, amnésique. Tournant sans raison, étalé, mis à plat, comme si on avait supprimé la perspective, le point de fuite. Et le plus étrange, c'est que les morts vivants de ce monde sont construits sur le monde d'avant. Leurs réflexions, leurs sensations sont d'avant.
C'était une rediffusion du Personne n'est parfait du 2 février 2000. L'émission était produite par Marc Voinchet et réalisée par Gaël Gillon, avec ce jour-là la prise de son Ariane Herbé. Le tout était remis en forme par Camille Maty avec Alex Dang aux manettes.